Et vous écoutez France Culture. Ma trompette à moi est jumelle et pourvue de deux embouchures, l'une pour le haro, l'autre pour l'osana, Léon Blois. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. C'est en effet les appels stridents et sidérants de ce trompette de l'apocalypse que fut Léon Blois qui vont retentir tout au long du mauvais genre de ce soir, des appels où se mêleront amoureuses invocations au dieu du calvaire et attaques frontales et dévastatrices contre la bien-pensance et le prêt-à-penser bourgeois, adoration et exécration de celui qui sut mieux qu'aucun autre faire ondoyer les palmes et parler la poudre. Un dieu ni maître, Léon Blois ou l'anarchisme mystique, c'est ce soir dans Mauvais genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre, placé ce soir sous l'invocation du seul Léon Blois, dont on fête cette année le centenaire. C'est en effet il y a 100 ans, 1917, que Léon Blois nous quittait, donc en pleine Première Guerre mondiale, un événement dont il a donné une vision à nul autre pareil. Pour évoquer l'auteur donc de La femme pauvre et du désespéré, je suis en compagnie ce soir de Pierre Glaude. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre Glaude, professeur à la Sorbonne et auteur aux éditions Les Belles Lettres de Léon Blois, la littérature et la Bible, qui est un ensemble d'études qui jalonne et qui sillonne toute une vie de travail sur Léon Blois. Pierre Glaude, puisque vous avez été un des premiers, si j'ose dire, sur Zode, sur le site, vous y êtes intéressé à Blois, une époque où personne n'y prêtait vraiment attention à l'université.
Pas tout à fait personne, mais en tout cas, j'ai contribué avec d'autres à le faire redécouvrir dans les années... à la fin des années 1980, et maintenant que je suis quasiment arrivé au bout de mon parcours, j'ai trouvé qu'il était intéressant de réunir un ensemble de travaux.
Voilà, donc ils sont disponibles dans ce livre paru aux Belles Lettres. Présent également avec nous Emmanuel Godot, bonsoir.
Bonsoir.
Auteur aux éditions du Cerf de Écrivains légendaires. Alors vous avez déjà balisé le terrain avec d'autres écrivains dits catholiques. Et Blois est une nouvelle étape, on peut le dire.
Claudel, Huysmans, oui. Et Blois, je m'intéresse particulièrement au rapport qui existe entre écriture et spiritualité. Comment l'écriture elle-même peut être une expérience spirituelle. Donc Blois, et le côté tonitruant de Blois était évidemment une musique qu'il fallait absolument explorer.
Voilà, donc le Blois apocalyptique. Troisième figure ce soir autour du plateau de Mauvais genre, François Livonnet.
Bonjour.
Bonjour, qui après Ernst Jünger, Lucien Rebattet et qui d'autre encore? Troisième figure...
Massignon.
Et Massignon, et Léon Blois, est donc l'invité de Mauvais genre et qui a publié aux éditions Le Mieux Éditeur une apologie d'Ernst Jünger. Quel rapport avec Léon Blois, François Livonnet? C'est que Jünger était grand lecteur de Léon Blois.
Grand lecteur, et qu'il a découvert Léon Blois par Carl Schmitt, donc par l'influence que Blois a eue en Allemagne, un itinéraire intéressant.
C'est vrai, Pierre Glaude, que les lecteurs à l'étranger de Blois, c'est tout un chantier, parce qu'on est souvent surpris par les lecteurs de Blois, Borges notamment.
Oui, on en trouve un peu partout dans le monde. En Russie, par exemple, Berdiaev a été un lecteur très attentif de l'œuvre de Blois, en Allemagne, comme on le disait à l'instant. En Amérique du Sud, hein, Borges, mais aussi Alejo Carpentier, par exemple, dans les Balkans, je pense à Ivo Andrić. Et c'est vrai que la réception de Blois est à la fois très inattendue, parfois, et bigarrée, ce qu'elle est aussi en France, du reste.
Voilà, ben on va voir ça, justement, François Livonnet.
Ajoutez que le Blois qui intéressera les Allemands, à l'époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, c'est un Blois offensif. C'est-à-dire, c'est dans la lutte ou le combat de la minorité catholique contre le Kulturkampf, contre Bismarck. Donc, c'est pas du tout le Blois de la sorte de littérature catholique aimable et bienvenue. C'est très, très militant.
Le Blois aimable reste encore à découvrir, j'imagine, en tout cas, et convenu en tout cas.
Ça s'est produit tout de même.
On va voir tout ça avec vous, mais en attendant, eh bien, le rituel se reproduit comme tous les samedis. Nous ouvrons l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Ma chère Céline, quelle est la lettre de ce samedi?
Eh bien, c'est la lettre D comme Delsperger, Brice Delsperger, qui présente en ce moment deux films extraits de sa collection de Body Double. Alors, Body Double, c'est un concept que Brice Delsperger a créé en 1995. Il s'agit de reprendre certaines scènes de films cultes dans l'histoire du cinéma ou parmi ses films préférés et de les faire rejouer à l'identique, mais avec ses propres acteurs et ses propres décors, tout en gardant la bande-son originale et les voix originales comprises. Le twist de l'histoire, la touche d'Elsperger, c'est que tous les personnages des films sont interprétés par un seul et même comédien, issu pour la plupart du temps du milieu de l'art, de la performance ou du monde de la nuit. Imaginez par exemple Jean-Luc Vernat, célèbre artiste connu aussi pour son corps entièrement tatoué, prêtant son corps tout aussi bien à Tom Cruise qu'à Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut. Le résultat est tout de suite très relevé, flirtant avec le burlesque, une forme de gaieté, d'humour décalé et jouant sur la remise en question des genres, des codes et des normes. Joie, Brice Delsperger présente en ce moment à la Galerie R de Paris deux Body Double, les numéros 32 et 35, le Body Double 32 reprenant une scène de Carrie, le film de Brian De Palma.
La scène de De Palma, c'est une scène, c'est la scène d'intro qui contient d'ailleurs le générique du début du film. On a un mouvement comme ça qui glisse le long des allées du vestiaire et on découvre donc toutes ces jeunes filles qui sont en train de se changer. Il y en a qui sont nues, il y en a qui sont à moitié nues. Tout d'un coup, la troisième allée révèle une fille au fond, sous la douche. C'est la seule fille qui est encore sous la douche. Donc on voit qu'il y a une fille qui traîne, qui prend sa douche, alors que les autres sont déjà en train de s'habiller. Et la caméra s'avance et on découvre Carrie. Donc cette séquence, moi, je l'ai reprise à l'identique. C'est-à-dire que mon film contient effectivement la séquence originale de De Palma avec les trois allées de vestiaire plus la séquence de la douche. Donc dans la séquence de De Palma, comme dans ma séquence, la scène de la douche est identique. Donc on découvre une Carrie très suave. L'ambiance est très très érotique puisqu'il y a de la fumée. On voit qu'il fait chaud et en fait Carrie prend du plaisir à prendre sa douche en fait. Et au moment où on imagine que le plaisir est le plus intense puisqu'on voit sa main aller et venir entre ses jambes, bon, tout ça de manière très pudique parce qu'on voit jamais le sexe de Sissi Spacek, on découvre du sang qui coule et on découvre en même temps qu'elle que du sang coule de son sexe. Donc elle a la main couverte de sang et donc elle découvre avec stupeur ce sang entre ses jambes. Donc dans la version de De Palma, la scène ne s'arrête pas ici puisqu'elle sort de la douche et elle se fait, elle est sujet de raillerie de ses camarades. Donc toutes les filles lui envoient des serviettes hygiéniques dessus et se moquent d'elle. Donc dans ma séquence, simplement elle sort de la douche, elle est toute seule, les filles ont disparu et au bout de trois allées, Carrie habite entièrement toute la scène, c'est-à-dire qu'elle a envahi complètement la séquence et donc toutes les filles se sont transformées en Carrie. C'est une sorte de malédiction, on va dire, de revanche, voilà. Et la séquence se répète comme ça plusieurs fois, c'est-à-dire que on passe d'une séquence où toutes les filles sont dans le vestiaire à une séquence où elles se sont transformées toutes en Carrie et c'est une sorte de va-et-vient comme ça, très aussi aérien que De Palma, je dirais.
Et tout interprété par le même acteur.
Tout interprété par Alex Vetter, oui. Oui, oui. Avec le thème de musique qui est aussi gardé, le thème de Pino Donaggio qui est rejoué, mais différemment, avec différentes partitions d'instruments au fur et à mesure du film, de la séquence.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi un homme pour interpréter la scène de Carrie ?
J'ai choisi un homme pour interpréter la scène de Carrie car pour moi, ça fait basculer la scène dans, justement, autre chose, puisque ça ne veut plus dire qu'une fille a ses règles, mais ça veut presque dire qu'un homme se transforme en femme. Donc c'est un switch transformiste, on va dire, presque.
La série des Body Double, les nombreux remakes de Brice Delsperger sont à découvrir sur son site internet www.brisedelsperger.com ou alors rendez-vous à la galerie R de Paris en ce moment et jusqu'au 6 janvier au programme projection des Body Double 32 et 35. Le Body Double 35 mettant en scène le chorégraphe et danseur François Chéniaud transformé en Kira, la belle héroïne de la fable disco Xanadu, film de Robert Greenwald qui marque la fin de l'époque disco. Vrai bide commercial et économique devenu entre les mains expertes de Brice Delsperger, une ode dansante et vibrante et lumineuse.
Merci Céline pour cette entrée. Brice Delsperger de notre encyclopédie pratique des mauvais gens, dont je rappelle qu'on peut la retrouver aux éditions Nada sous la forme d'un livre
en chair et en os
accompli et que donc on peut avoir sous le bras et à disposition l'univers de Céline Duchesnay. Question Pierre Glaude, il n'y a à ma connaissance aucun film qui a été tiré d'une œuvre quelle qu'elle soit de Léon Blois.
À ma connaissance, il n'y en a pas. Mais je ne me suis pas livré, à vrai dire, à une enquête précise sur la question. Donc je ne veux pas l'assurer absolument.
Mais il y a certains écrivains dont on sait qu'ils sont des défis redoutables pour le cinéma. Proust, Céline, Malcolm Lowry, malgré Huston. Blois en est peut-être un. C'est peut-être quelqu'un dont l'écriture, dont la langue est très difficilement transposable en langage visuel, en tout cas cinématographique.
Sa langue, certainement, mais l'imaginaire de Blois est malgré tout d'une telle richesse qu'on pourrait l'imaginer sous une certaine forme, dans un ensemble de transpositions plastiques. Et simplement, il faudrait trouver des équivalents visuels pour sortir d'un littéralisme qui, en cette matière, ne convient pas nécessairement.
Tout à fait. Emmanuel Godot, vous voyez qui comme adaptateur de Blois au cinéma ?
Godard.
Pourquoi pas, ma foi, oui.
Pour les transpositions, justement.
Oui. François Dubonnet.
Mocky, on en parlait.
Jean-Pierre Mocky, oui, ça c'est un univers.
En accentuant tout de même certains aspects de Blois, qui sont peut-être pas les aspects les plus intéressants, mais enfin bon.
C'est vrai que l'univers de Mocky, le style de Mocky est spontanément bloyen sur certains plans. Sinon, on peut recommander pour nos auditeurs le film de Bruno Dumont, Maloute, qui donne de la bourgeoisie de la Belle Époque et même du prolétariat et de la paysannerie une vision assez hallucinée, monstrueuse et quasi fantastique qui pourrait recouper celle que donne Léon Blois, qui est donc au cœur de notre mauvais genre de ce soir sur France Culture. Faute trompette de l'apocalypse, celle de l'Art Ensemble of Chicago, Roscoe et Mitchell, Valachi Favor, qui donne une petite idée d'ailleurs de ce que pourrait être un carnaval, bon pas bloyen, mais en tout cas un grand carnaval scénique américain. Alors on va peut-être entamer cette émission, Pierre Glaude, Emmanuel Godot, François Livonnet, non pas tout de suite par les points comme ça cruciaux de l'œuvre et de la pensée de Blois, mais peut-être par sa vie, puisque Blois c'est d'abord la vie de Léon Blois qui a été tout à fait extraordinaire. Il naît en 1846, il meurt centenaire voulant donc en 1917, et c'est une vie marquée donc par sa vie d'écrivain. On la connaît bien évidemment tout au travers d'une série de publications majeures, les romans Le Désespéré, La Femme Pauvre, son journal en plusieurs volumes qui est absolument extraordinaire, et puis tout un recueil d'études, le brelan d'excommuniés, l'entrepreneur de démolition, Belvers et Porcher, où il donne de la vie littéraire et de la vie politique de son époque une vision extraordinaire. Donc voilà, il y a cette œuvre qui est là, mais Pierre Glaude, elle est portée par une vie qui est elle-même totalement insensé, puisque si Blois naît à Périgueux, s'il meurt à Bourg-la-Reine en banlieue, il a passé toute sa vie à Paris, mais Paris dont il n'a pas fait, je dirais, un objet de rêverie ou de dérade poétique, comme le feront Apollinaire, Fargue ou les surréalistes, mais une espèce de casernement. Il a été pris dans Paris parce qu'en définitive, sa vie a été une vie de misère, une vie de difficulté, qu'il a tenue comme ça dans la grande ville, dans la Babylone.
Oui, Paris, c'est effectivement la Babylone moderne pour Blois, mais en même temps, il y a une sorte d'aimantation vers Paris. C'est une ville qui l'attire parce que, il le dit d'ailleurs dans Le Désespéré, c'est un foyer intellectuel où on peut, quand on rêve d'être écrivain, conquérir la gloire. Et il a eu, tout jeune, ce rêve, assurément, mais il a très vite dû déchanter. Son entrée en littérature a été pour le moins ratée. Et son coup de génie, d'une certaine manière, c'est de, alors qu'il était plutôt rejeté en marge, de s'y installer et de transformer cette ignominie ou cette forme d'humiliation d'être relégué à la périphérie en titre de gloire. Et il est non seulement un écrivain parisien, mais je dirais aussi un écrivain de banlieue. Il a passé sa vie à user des chaussures entre la banlieue et Paris. Mais c'est incroyable ce qu'il a pu faire, parce que souvent il allait à pied, souvent aussi pour quémander auprès d'amis ou solliciter des éditeurs son pain quotidien. Et il lui fallait quand même une santé extraordinaire pour survivre à ces épreuves quotidiennes de marcheur.
C'est vrai, Emmanuel Godot, que Blois, c'est l'homme qui marche, c'est aussi l'homme qui stationne dans les cafés, où il joue aux cartes, aux billards, aux échecs, où il discute sans fin. C'est l'homme qui démarche, qui va chez tel ou tel pour essayer de grappiller le peu d'argent qui est possible et avec lequel il fera vivre d'abord lui-même et sa compagne et plus tard sa famille. C'est une sorte d'errance, mais qui, je le répète, qui n'est pas une errance poétique et délectable.
Oui, c'est quelqu'un qui, je trouve, qui authentifie son œuvre et son écriture justement par l'assomption d'une vie de précarité, une vie d'intense demande. C'est quelqu'un qui est dans une relation économique justement qui déjoue tous les conditionnements de la société contemporaine. Et il l'organise avec son épouse et dans ce foyer. Quelque chose qui est précisément extrêmement précaire et extrêmement fertile. Je crois qu'il y a une extraordinaire, effectivement, Pierre Glaude le soulignait, il y a une volonté chez Blois, à un moment donné, de renverser le désastre en chance, d'une certaine manière. C'est une malédiction, mais une malédiction qui permettra de dire quelque chose d'absolument inouï à son époque. Et je crois que cette parole, aujourd'hui, nous frappe par sa force, qui puise à cette précarité-là.
François Livonnet.
Oui, Paris et sa banlieue, c'est vrai. D'ailleurs, à propos de la banlieue, quand il s'installe à Bourg-la-Reine, c'est anecdotique, mais il s'installe dans la maison qui était celle de Peggy. Donc il y a aussi de curieux hasards. Mais
signes.
Quand vous dites qu'il ne quitte pas Paris, il va tout de même au Danemark, puisque
oui,
sa femme est danoise.
J'ai passé un petit peu, hélas, le séjour danois.
Il va guerroyer près du Mans, à Villebray, lorsqu'il sera dans les corps francs. Et puis, il est bien, à cet égard, c'est bien un homme du 19e siècle, du tourisme naissant. Il emmène ses enfants régulièrement au bord de la mer, au Tréport, en Bretagne. Donc il quitte quand même la ville pour que les enfants profitent un peu du grand air. Il les jette dans l'océan.
Puis il y a le pèlerinage de la Salette, qu'il a accompli plusieurs fois, parce que ce lieu, il y a quelques lieux qui comptent infiniment dans sa vie. On aurait pu ajouter, même si ça peut paraître anecdotique, les villégiatures en Périgord. Mais enfin, c'est vrai que c'était pas un grand voyageur et qu'il est resté quand même. Il a beaucoup rêvé en étant à Paris ou dans sa banlieue.
C'est un homme d'ailleurs que quand il se déplace, est toujours dans un état un peu étrange. Il n'a pas l'habitude, il n'a pas la culture du voyage et la culture des vacances.
Oui, et puis il y a le touriste pestant quand il amène sa famille, mais le pèlerinage, c'est l'anti-tourisme. Hein. C'est François Joliet qui aime dire qu'on va à Lourdes, mais qu'on est de la Salette.
Voilà, c'est ça, effectivement. Il avait, avec l'apparition de la Salette, l'apparition mariale, un lien tout particulier qu'on va d'ailleurs, évidemment, évoquer. Alors, au sein de cette vie parisienne, Pierre Glaude, il y a des rencontres, d'abord des rencontres féminines. féminine, puisqu'il est connu pour avoir épousé donc une Danoise, Jeanne Molbech, à la fin de sa vie, dont il aura deux filles. Mais avant, il y a toute une série de rencontres féminines qui auront pour Blois une importance fondamentale, puisque d'abord, il attribue à la femme un rôle essentiel dans l'histoire humaine et dans l'histoire spirituelle. Et puis, il rencontrera une femme qui fera de lui, je ne veux pas dire quasi un prophète, enfin qui lui attribuera véritablement un rang de témoin essentiel, voire de prophète.
Oui, il mène une vie qui est un peu désorbitée, hein, jusqu'à son mariage, qui marque un véritable tournant dans son existence. Mais c'est vrai que avant ce mariage, il a une vie d'abord assez pauvre, assez difficile, assez précaire, et qui, sur le plan de ses relations féminines, est caractérisée par des relations d'une intensité exceptionnelle, avec des figures étonnantes, hein, de femmes humbles. L'une d'entre elles, une ouvrière d'Oreuse, Berthe Dumont, mais aussi une prostituée occasionnelle, Anne-Marie Roulet, venue de Bretagne, chassée pour avoir eu une conduite indécente, selon les critères de l'époque. Et il a, avec cette dernière, une relation d'une intensité extraordinaire, puisque très vite, c'est une relation mystique qui va s'établir. Et c'est très curieux ce lien qui s'établit entre la figure de la prostituée et la figure de mystique de celle qui va jouer un rôle d'intercesseur entre Blois et les plus hautes ambitions spirituelles. Et c'est un élément qui est très caractéristique de ces amours, d'amours qui l'ont véritablement marqué à vie.
Emmanuel Godot.
Oui, on a toujours l'image d'un Blois, d'une spiritualité fracassante, une forme de parole virile, mais il y a une sorte de célébration de la femme chez Blois qui est absolument unique, je crois, dans l'histoire de la littérature, et une écoute de ce que peut être la parole féminine, justement, raccordée au divin. Le journal est émaillé de la parole de Jeanne. Jeanne coécrit, d'une certaine manière, si on en croit Blois, le journal. Elle est l'intermédiaire entre le divin et le monde. Donc, il y a aussi une féminité extraordinaire chez Blois.
François Libonnet.
Oui, puis la femme est prise entre la figure de la sainteté et la prostituée, entre la pureté et la boue. Il y a cette réversibilité, hein, si on prend un concept bloyen, qui est quelque chose de remarquable chez lui. Alors, précisons tout de même que Anne-Marie Roulet va verser dans la démence. Elle finira dans un hôpital psychiatrique, d'ailleurs, je crois, en Normandie, où seront les parents de Sainte-Thérèse
de Lisieux. Oui,
on peut aussi se demander si cette femme a réussi à porter tout de même l'exigence ou la réclamation oraculaire de Blois.
Alors, une vie marquée par la précarité, vous l'avez dit, Manuel Godot, par l'errance, par une espèce d'exigence permanente d'absolu et de vérité qui va marquer Léon Blois. Mais on a évoqué les rencontres féminines. Il y a, parlons bien sûr de la rencontre intellectuelle, Pierre Claude, qui est celle de Barbey d'Aurevilly, qui lui est donnée de manière totalement hasardeuse. C'est vraiment ce qu'on appelle le chemin de Damas, qui pour lui sera la rue Vanneau. Rue Rousselet, pardon. Parce que auparavant, Blois, dont la mère était pieuse, mais le père, Bouffet du curé, était un franc-maçon du Périgord, était plutôt tenté par le syndicalisme révolutionnaire, voire par l'anarcho-nihilisme. Il était plutôt du côté de Herzen ou de Vallès. Et puis, il tombe un jour, par hasard, sur cette apparition, parce qu'il y aura, c'est l'autre apparition dans la vie de Blois, c'est pas la Vierge Marie, mais c'est Barbey d'Aurevilly, qui passait rue Rousselet. Et alors, la légende veut que Blois soit en train de vendre, en période de nécessité, un Voltaire complet, un brocanteur, et le Voltaire vendu, ou au moment où, pendant le négoce, apparaît Barbey d'Aurevilly. Et là, on peut dire, Pierre Claude, toute sa vie va changer. C'est-à-dire que Blois est révolutionné de fond en comble. Il va l'être.
Oui, Blois est ébloui par Barbey, qui ne passait pas inaperçu quand on l'apercevait au tournant d'une rue. Et Barbey a été séduit par cet admirateur un peu naïf qui était béant devant lui et qui le suivait, qui l'a installé chez lui pour avoir une conversation. Et avec qui il a noué un lien d'affection. Là, la différence d'âge est importante. Barbet est né en 1808. Et Barbet s'entoure à cette époque de jeunes gens qui lui donnent un coup de main dans ses activités intellectuelles, puisqu'il a horreur de corriger des épreuves. Et il cède volontiers cette tâche à ces jeunes gens, Georges Landry en particulier, et Léon Blois. Et Blois est un extraordinaire liseur. Hein. Barbet parle de son œil de lynx et le félicite d'être un excellent correcteur, minutieux. Et il lui rend en retour le service de le former, mais de le former à sa manière, c'est-à-dire en lui faisant lire ce que l'on appelle les bons livres, c'est-à-dire Joseph de Maistre, Blanc de Saint-Bonnet, Anne-Catherine Emmerich, de la littérature aussi, en le sensibilisant aux grands auteurs qu'il a aimés, en particulier Balzac, Baudelaire, et il va être, d'une certaine manière, l'intercesseur de Blois qui va l'aider à prendre pied dans les milieux littéraires et journalistiques. Même si, par la suite, ses débuts qui s'annonçaient assez bien vont tourner à la catastrophe, du fait de l'intransigeance de Blois dont on parlait tout à l'heure, hein, du fait que Blois a une conception de l'authenticité qui est fort peu partagée dans les milieux littéraires de l'époque, où on a le sens d'un certain nombre de convenances, de compromis, d'usages, que Blois va bousculer et va renverser. Et évidemment, cela va le mettre très vite en délicatesse avec à peu près tout le monde.
Emmanuel Godot, il a une phrase célèbre, il est avec le ciel des accommodements. Pour Blois, il n'y a pas d'accommodement possible avec le ciel. C'est le ciel qui est la seule vérité et le seul absolu. Et donc, c'est avec le ciel qu'il faut... C'est le ciel qu'il faut suivre, en tout cas les signes qu'il nous envoie.
Il n'y a pas d'accommodement possible, pas d'acclimatation possible pour Blois. Même Barbet de Revilly est obligé de dire à Blois de calmer un
Calmez-vous.
Tout petit peu sa fureur. Donc c'est quand même un hommage incroyable, paradoxal. Et Barbet de Revilly, effectivement, donne à Blois, je crois, l'image de ce que pourra être son positionnement. Je crois que Blois parle de Barbet de Revilly comme d'un chevalier de Dieu dans un monde sans chevalerie et sans Dieu. Donc Blois va reprendre ce flambeau-là.
Alors, ces lectures que lui intime Barbet de Revilly, le fait qu'il ait accès au dictionnaire, mais au dictionnaire, comme disait Henri Michaud, les mots en liberté. Le dictionnaire pour Blois, c'est une sorte d'arsenal dans lequel il va puiser des mots souvent rares, méconnus, construire des latinismes. Il se forme également au latin d'une façon très étonnante, en remontant, je crois, de la traduction vers la langue latine elle-même. Donc, véritablement, une sorte d'éducation un peu sauvage qui va générer, bien évidemment, une langue, une écriture, une vision du monde qui est celle d'un catholique radical, plus qu'intransigeant, un catholique absolu, et donc déterminer une absence totale de plan de carrière, bien évidemment, des difficultés relationnelles quasi permanentes avec le milieu du journalisme, de l'édition, avec le milieu intellectuel, et puis une vision de la société française de la Troisième République et de cette France, justement, laïque et républicaine, qui va être totalement bouleversée et révolutionnaire, et donc une image va naître de tout cela, qui est une image de pamphlétaire. Alors Blois est-il un pamphlétaire? On va l'écouter nous en parler. Pamphlétaire. Sans doute que je le suis, pamphlétaire, parce que je suis forcé de l'être, vivant comme je peux dans un monde ignoblement futile et contingent, avec une famine enragée de réalité absolue. Tout homme qui écrit pour ne rien dire est à mes yeux un prostitué et un misérable. Et c'est à cause de cela que je suis un pamphlétaire. Mais être pamphlétaire pour de l'argent, l'être pour ça et l'être comme ça, enfin... Sa réputation est faite, la mienne aussi. D'ailleurs, je ne suis comme lui, paraît-il, qu'un pamphlétaire. Quant au penseur et à l'artiste qui peuvent se trouver en moi, personne n'en dit rien, n'en dira jamais rien. Quand même, cela crèverait les yeux. Parce qu'il importe d'établir que je suis simplement un envieux qui n'attaque ses contemporains que par fureur de son obscurité et de sa misère. Or, le monde des lettres sait exactement à quoi s'en tenir, mais nul n'ose me défendre. J'ai constamment fui l'occasion du succès lorsqu'il fallait l'acheter au prix de la moindre concession, tandis que certains, triomphants, se plongeaient dans l'ordure. J'ai choisi de souffrir et de crever de faim
alors que je pouvais faire comme tant d'autres, afin de sauver l'indépendance de ma pensée, vous le savez. Je suis avant tout, surtout, catholique romain, et j'ai depuis très longtemps épousé toutes les conséquences possibles de ce principe. Cela, c'est mon fond, c'est mon substrat. Si on ne le voit pas, on ne peut rien comprendre à ce que j'écris. »
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà un extrait donc du texte de Blois où il manifeste, Pierre Glaude, cette espèce de statue bizarre qui d'ailleurs ne le quitte pas, puisque depuis 100 ans qu'il est mort, le mot pamphlétaire, le mot comme ça de pamphlétaire, de râleur professionnel, lui colle après sans que ça la représente la moindre vérité, mais bon, c'était l'image qu'on lui a donné en permanence.
Oui, et il serait injuste de le ramener à cette image. Assurément, Blois est un pamphlétaire, et un pamphlétaire génial, parce qu'on peut être un pamphlétaire raté, dont les formules ne font pas nécessairement mouche, ou qui paraît simplement odieux par sa violence, ou la bassesse de ses arguments. Chez Blois, il y a un véritable génie de la formule, un bonheur d'expression que Roland Barthes, d'ailleurs, dans un article célèbre, relevait, une sorte de magnificence de la langue dont vous parliez tout à l'heure, qui séduit très au-delà de ce que pouvait être le lectorat attendu de Blois. Et qui a quelque chose de jubilatoire. Hein. On connaît des échanges de lettres entre Gide et Valéry, où l'un et l'autre se confient qu'ils lisent Blois parce que c'est à se tordre, tellement ces formules sont drôles, jusqu'à y compris dans la rosserie. Donc il ne faut pas oublier cet aspect, mais et il faut bien sûr rendre justice de ce point de vue à Blois, mais il ne faut pas le réduire à cela. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a chez lui à la fois, il y a aussi un poète, hein, quelqu'un qui rêvait d'être un poète, quelqu'un qui cherche partout à célébrer la présence de Dieu dans les phénomènes les plus inattendus. Et tout à l'heure, on faisait un lien entre prostitution et mysticisme, mais c'est tout le génie bloyen de restituer aux figures féminines leur densité incarnée, et de croire d'ailleurs à la fécondité de l'incarnation, non pas pour faire de la chair le lieu simplement de la souillure et du mal, mais le lieu où possiblement peut germer une étincelle spirituelle qui va réenchanter d'une certaine manière l'existence.
Emmanuel Godot ?
Oui, il y a une refondation du langage chez Blois. Et donc, effectivement, le réduire au rôle de pamphlétaire, c'est une commodité intellectuelle. Finalement, c'est le confort intellectuel qu'on trouve même chez Mauriac. Mauriac rit en lisant Blois. C'est une forme de paresse intellectuelle parce que la force de frappe, justement, du style bloyen ne se suffit pas, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que c'est fait pour bousculer le lecteur, pour travailler l'esprit du lecteur là où il est verrouillé dans son système de pensée, quel qu'il soit, d'ailleurs y compris un catholicisme, y compris un christianisme qui serait, et peut-être parfois surtout d'ailleurs, un christianisme qui s'endormirait sur ses propres bases. Et donc le style de Blois est là précisément pour travailler à le lecteur, lui ouvrir de nouvelles perspectives et réduire toutes ses défenses immunitaires.
la réduction des défenses immunitaires intellectuelles du lecteur. C'est vrai, François Livonnet, mais encore faut-il que le lecteur se laisse faire. Parce que Blois prend d'assaut avec tout son arsenal et ses machines de guerre linguistiques et littéraires et rhétoriques le lecteur. Enfin, il faut que le lecteur accepte de se laisser mener. C'est pas facile. Beaucoup de gens ont dit, Blois, c'est pas possible. Blois, on ne peut pas. Je ne peux pas le lire. Il faut quand même accepter aussi. Il faut faire confiance.
Oui, justement. Faire confiance ou se laisser porter par Blois, c'est aussi ne pas rester en surface. Or, en faire un pamphlétaire, c'est à mon avis passer à côté. Parce que qui est pamphlétaire à l'époque, c'est Veuillot. Un peu plus tard, Léon Daudet, ou plus tard encore
Taillade, Lucien... des gens comme Taillade.
Taillade, voilà. Ou plus tard Lucien Rebattet. Enfin, ce sont des gens qui étaient des pamphlétaires. Chez Blois, c'est la tradition mestrienne de la vitupération, de l'imprécateur, si l'on veut. Pourquoi ? Parce que il s'agit d'être intransigeant, une fois de plus. C'est la radicalité. Donc, le pamphlet est une des couleurs de la palette. Mais il n'est pas pamphlétaire, déjà parce qu'il le dit lui-même, parce qu'il se pense comme étant d'abord catholique. Et que être catholique, c'est aussi être à la mesure d'une certaine exigence. Hein. Exigence à la fois de pensée, exigence de style et exigence de vie.
La grande différence, c'est peut-être que tous les noms qu'on vient de citer, que ce soit Louis Veuillot, que ce soit même un Édouard Drumont, un Léon Daudet ou les Maurrassiens, étaient des gens qui s'inscrivaient, alors on parlait de pamphlétaires ou de polémistes, dans des polémiques du moment. C'est-à-dire, c'était tel scandale politico-financier, c'était telle loi inique votée par l'Assemblée, c'était tel propos déclarés par un ministre, et là on réagissait, on engageait une polémique, on faisait œuvre de pamphlétaire. Blois, à aucun moment, il ne réagit contre les propos tenus à l'Assemblée nationale, ou Blois, évidemment il réagit aux événements du type, aux faits divers, aux catastrophes, mais quand il réagit à la réalité, c'est au nom d'un absolu métaphysique et spirituel, et il réagit en tant que justement, porte-parole de l'absolu, non pas en tant que porte-parole d'une idéologie.
Absolument. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il aimait les stations, comme il disait, ouais, au café. Et c'est vrai qu'il a passé souvent des heures nombreuses à lire le journal dans les cafés parisiens. Et il c'était un grand lecteur de l'actualité. Et il n'a cessé de tirer parti de l'actualité, de prendre appui sur l'actualité, comme le ferait un pamphlétaire. Par exemple, les attentats anarchistes, voilà, des années 1890 l'intéressent au plus haut point. Et il en parle dans son journal, il en tire parti. Il tient d'ailleurs des propos qui scandalisent les lecteurs, scandaliseront un certain nombre quand paraîtront les différents volumes de son journal. De même, quand le Titanic sombre ou que
la montagne pelée
fait irruption, ou que le bazar de la charité s'embrase, ou que l'opéra comique aussi connaît un incendie ravageur, tout cela, il ne le rate pas. Mais à chaque fois, il s'abstrait très rapidement de l'événement. Il ne cherche pas à en tirer des arguments politiques, sociaux, qui s'inscriraient dans une visée toute humaine. Au contraire, il se projette très rapidement vers des horizons qui sont métaphysiques, théologiques et eschatologiques.
Alors nous évoquions ce Blois peu pamphlétaire, mais grand visionnaire, et au nom de l'absolu, au nom de vérité mystique, transcendantale, qui lui permettent de donner de cette Troisième République française, qui est son spectacle permanent, une vision totalement hallucinée, puisque Pierre Glaude, il va en fait passer en revue toutes les gloires de l'époque de manière assassine, enfin je veux dire dévastatrice, que ce soit Ernest Renan, que ce soit Zola, que ce soit Daudet, les frères Goncourt, tout le monde y passe, un peu comme Barbey d'Aurevilly qui passait en revue les académiciens, lui passe en revue toutes les grandes têtes molles ou supposées-elles de la Troisième République, et en même temps fait l'apologie, enfin l'apologie, salue et se déclare intrigué, fasciné par Lautréamont, donc personnage là qui incarne sa vision dans une critique directe de la société.
Ah, il donne de la société de l'époque effectivement une vision apocalyptique et il se livre à une critique radicale de toutes les célébrités, il ne recule devant rien. Mais il s'inscrit aussi dans une tradition qui vient d'Edgar Poe à certains égards et qui passe par Villiers de l'Isle-Adam, qui fut son ami pendant plusieurs années, et qui s'illustre bien dans les contes cruels, c'est-à-dire une tradition d'un grotesque qui touche au fantastique et qui permet de peindre votre voisin, la propriétaire, le boutiquier, le charcutier, enfin l'agent de police, sous un jour absolument dantesque. Et c'est aussi le génie de Blois, dans ses histoires désobligeantes, de non seulement dans la vitupération de s'en prendre aux célébrités de l'époque, comme vous le disiez, bon, et de dire que Zola est le crétin des Pyrénées à cause de son livre sur Lourdes, par exemple, ou que Bourget est le nuque
transcendantal.
Voilà. Bon, mais je trouve aussi intéressant le tableau qu'il dresse de la société de son temps à travers ses contes, et en particulier ses histoires désobligeantes, où il peint les mœurs du temps, mais sous un jour qui est à la fois grotesque et fantastique dans la tradition de Villiers et de Pau.
François Livonnet, il y a une tradition donc chez Blois de la charge, ça, de vision, qui fait qu'il s'empare soit d'un bourgeois anonyme, soit d'une célébrité, sur visage sur lequel il opère une opération, on peut dire, de macroscopie. C'est-à-dire qu'il prend un petit bourgeois, qu'il agrandit à la dimension de l'univers, et ce petit bourgeois devient un monstre dantesque, comme disait Pierre Glaude, un cochon. Donc il y a une espèce de mutation des personnages sous le regard de Léon Blois, ça devient de la tératologie, ça devient le bestiaire, et non plus une littérature réaliste, de même critique de type Zola, Mirbeau et ou Goncourt et naturaliste et autres. La même chose avec le langage, puisqu'il y a un livre parmi les plus étonnants de Blois qui est l'exégèse des lieux communs. Alors déjà le titre pour nos auditeurs mérite les discussions. D'habitude l'exégèse se réfère au texte sacré et c'est pas l'exégèse de la Bible, là c'est l'exégèse des lieux communs. Donc déjà un mariage un peu singulier qui fait que même derrière la bêtise crasse, le poncif et la banalité du bourgeois, il y aurait le reflet d'un mystère, voire d'une vérité spirituelle.
Oui, enfin, il me semble que dans l'exégèse des lieux communs, il y a à la fois, en effet, les mœurs des cochons sous toutes leurs formes. Là, on pourrait voir...
Le cochon est quand même l'animal...
Oui, le cochon, c'est le bourgeois, le petit bourgeois, avec les mœurs du petit bourgeois. Mais là aussi, on voit le décalage par rapport au pamphlet. C'est qu'il s'agit à chaque fois, non pas simplement de brocarder, c'est pas simplement un bretteur qui voilà. va combattre l'ennemi. C'est aussi toujours avec une prétention d'analyse. C'est qu'à travers, finalement, l'exégèse, elle peut avoir une leçon de morale, mais elle est aussi un élément d'analyse et de compréhension de la société. C'est une réplique, au fond, à Zola. C'est une autre forme de physiologie sociale.
Tout à fait, Emmanuel Godot.
C'est le regard théologique, c'est-à-dire que là, ce qui va expliquer toutes ces déformations, pourquoi le langage peut-il être objet d'exégèse, c'est parce que Dieu aussi parle à travers ces déformations, et le regard de Blois, précisément, consiste à constamment nous dire, mais de toute façon, vous voyez tout le monde, vous le voyez à l'envers, la vérité n'est pas... Il faut renverser les choses pour appréhender la vérité. Donc, entendre dans ce langage bourgeois... un écho d'une vérité divine.
Oui, et puis il me semble qu'il y a aussi l'influence, encore une fois, de Joseph de Maistre.
On ne citera jamais assez.
Oui, de ce que Steiner appelait les logocrates, hein, c'est-à-dire l'idée que le langage, la parole, elle est toujours d'origine divine, et que d'une certaine manière, le cochon dévoie, lui aussi, là également. À la fois, le sang du pauvre, tout y passe, mais c'est toujours la même dimension de la réversibilité dont on parle.
Avoir un cœur d'or, quel privilège! Plus de palpitations, plus d'émotions, plus d'amour bête, plus d'entraînement irréfléchi, on est tranquille comme Baptiste et heureux comme les cochons. Cessation des phénomènes absurdes, on ne se ronge plus le cœur ne saigne plus. On n'a pas un cœur d'airain, ni un cœur de pierre, encore moins un cœur de lion, mais un bel organe, rutilant, conoïde et creux, tout en or et parfaitement insensible. C'est le privilège inestimable du vrai bourgeois. Le plus bel éloge qu'on puisse faire de lui, c'est qu'il a un cœur d'or. Les propriétaires, les huissiers, les usuriers ont presque toujours un cœur d'or et cela se voit tellement. Si vous essayez de les troubler, de les impressionner, de les émouvoir d'une façon quelconque, vous perdrez vos peines. Le cœur d'or vous mettra du plomb dans la tête, du plomb dans les jambes et vous aurez bientôt une mine de plomb. Seulement, le cœur d'or est un don de la nature. On ne le trouve pas chez les bijoutiers, qui ne vendent ordinairement que du doublé et qui trompent ainsi tant de jeunes époux candides en leur préparant des surprises désagréables au monde piété. Si la nature marâtre ne vous a donné qu'un cœur ordinaire, il vous reste la ressource d'épouser une jeune fille ayant un cœur d'or et très peu de foin dans ses bottines. Dès le lendemain, vous connaîtrez votre bonheur. C'est le conseil que je vous donne. Voilà un extrait de « Avoir un cœur d'or », de l'exégèse des lieux communs de Léon Blois. Voilà, ça c'est un bon exemple de la manière bloyenne de procéder. On prend une expression qu'on tous les jours, tous ou toutes, nous utilisons. Oh, un tel, il a un cœur d'or. Et Blois est là pour prélever comme un segment étrange cette expression. Et en donner, Pierre Glaude avait une vision alors là, un peu différente de ce à quoi on est habitué.
Oui, c'est ce qui me frappe chez Blois. C'est cette capacité à nous faire voir les choses sous un jour radicalement différent. Et c'est malgré tout l'éloge qu'on peut faire d'un grand écrivain en général, c'est de dire qu'il nous permet de regarder le monde sous un jour et avec des yeux qui sont neufs. Et c'est exactement ce qui se passe avec Blois. Et alors, dans l'exégèse des lieux communs, il s'agit en effet de partir de l'idée que le bourgeois a altéré la parole divine et que désormais il profère des vérités qui le terrasseraient s'il les comprenait, mais il ne les comprend pas. Or l'exégète est celui qui va essayer de faire sourdre à travers ce langage qui est devenu une sorte de néant et qui a pulvérisé toute valeur, faire sourdre du sens et de la valeur. Alors ça c'est le projet, mais en même temps, on a bien vu dans le texte que vous avez lu, il y a chez Blois une sorte de bonheur des enchaînements verbaux qui parfois l'entraîne dans un jeu qu'il ne contrôle plus d'une certaine manière. Et il se livre avec ingéniosité au bonheur d'un jeu de langage parfois le déborde et qui fait toute la complexité de ces petits objets très bien ciselés que sont ces pages de l'exégèse.
Alors, Emmanuel Godeau, il y a chez Blois, effectivement, Blois utilise un vocabulaire, je dirais, assez simple, assez clair, qui est tout entier dans l'argumentation rhétorique, dans la construction du texte. Mais il y a chez Blois la réquisition de mots absolument hallucinants qu'il est allé trouver dans aux quatre coins du dictionnaire, qui sont souvent des latinismes, et qui fait que son texte, à aucun moment, ne veut avoir un côté populiste, un côté anard, un côté le déhanché voyou. Au contraire, Blois, c'est un style d'enlumineur, c'est un style flamboyant et c'est même un style par moments volontairement opaque sur certains mots du vocabulaire.
Il parle de sa catapultuosité, par exemple.
Catapultuosité, oui.
De ce style, de cette langue. Mais alors, enlumineur, oui, mais qui prend aussi la langue dans sa chair. C'est pas, il faudrait pas laisser imaginer une écriture artiste, l'enlumineur, oui, mais qui fait entendre aussi la mémoire carnavalesque de cette langue qu'il apprend. Il prend l'homme dans sa globalité. D'une certaine manière, tout est bon dans le cochon. donc, on prend tout et on le projette vers quelque chose qu'il doit redécouvrir, en effet. Parce que l'homme est une parole animée, dit Joseph de Maistre. Ça, c'est un propos, je pense, que Blois a médité profondément. L'homme est une parole animée et donc la parole n'est pas simplement le symbole d'une dégradation. C'est le lieu même de la dégradation de l'homme. Et donc, ce qui est en jeu dans cette poésie, effectivement, dans ce travail sur la langue, c'est justement une refécondation de cette langue.
Terminer cette évocation de Léon Blois à l'occasion de ce centenaire dans Mauvais Genre sur France Culture ce soir avec ce qui est la clé de voûte de l'univers bloisien, François Livonnet, c'est la spiritualité mariale, puisque quand on pense spiritualité mariale, on voit Lourdes, mais Blois voyait la Salette, et là, la Vierge n'est plus de bleu vêtue pour guérir les plaies et les bosses, elle est là pour menacer et pour invoquer peut-être l'arrivée et la fin des temps.
Oui. Elle est en pleurs déjà, c'est pas une vierge souriante. Elle avertit, il y a en effet quelque chose comme une menace, le bras de son fils. Il y a un message et puis il y a un secret dont on connaîtra seulement une partie à travers Mélanie. D'ailleurs, c'est toujours
Mélanie
un peu paradoxal.
Mélanie qui est une des voyantes de cette apparition mariale.
L'un des pastoureaux de l'apparition mariale. Alors, cette apparition, on a beaucoup écrit, c'est une des apparitions mariales du XIXe siècle, qui est un siècle marial, comme on le sait, de Mariophanie. Mais je crois que, pour le saisir un peu dans sa complexité bloyenne, je crois que il faut d'abord le prendre en tant que fait symbolique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ça rassemble, ça unit ce qui était dispersé. Il me semble que c'est un fait religieux total, comme Marcel Mauss parle d'un fait social total, c'est-à-dire à la fois qui implique toute une société et un prisme à travers lequel on étudie, on va rendre compte d'une société. C'est un fait qui a aussi une dimension imaginaire, qui va nourrir l'imaginaire de Léon Blois, pas en termes de merveilleux, parce que c'est pas le merveilleux qui l'intéresse. Si le merveilleux se superpose au réel, c'est au contraire une sorte de révélateur du réel, la réalité qui apparaît dans sa crudité comme pivot d'une histoire. On pourrait s'arrêter théologiquement, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un fait qui a une importance théologique pour Blois, parce que, d'abord, ça, le catholicisme renoue avec la tradition mystique, il y a quand même eu la longue parenthèse du XVIIIe siècle, depuis Fénelon. D'autre part, la place de la femme, qui est en effet au cœur du mystère chrétien, mais également au cœur de l'histoire. Et puis aussi, me semble-t-il, d'un point de vue littéraire, La Salette est associée, toute la lignée des écrivains de La Salette, des apôtres de La Salette, jusqu'à Massignon, en passant par Claudel, Bernanos, ils interpréteront La Salette comme étant un passage de témoin, c'est-à-dire que les artistes deviennent des témoins, deviennent, j'emploie un mot là avec prudence, deviennent comme des prophètes, c'est-à-dire que ils portent parole, enfin ils témoignent pour. Et de ce point de vue-là, l'importance pour Blois, comme pour Claudel, de l'exégèse. C'est-à-dire que l'exégèse n'est plus affaire simplement de théologien. Le témoignage prophétique n'est pas affaire de clerc, simplement. Donc l'immédiateté de l'apparition de La Salette, c'est aussi un déplacement en direction de l'artiste, me semble-t-il, aux dépens de ce qui pouvait être les catégories antérieures.
Pierre Blot ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas oublier que Blois trouve la légitimité de sa vocation d'artiste dans son expérience de la Salette, où il a été amené par un prédicateur, Tardif de Moidré, pour écrire un livre qui restera toute sa vie sur son bureau et que Jeanne-Léon Blois publiera après sa mort, Le symbolisme de l'apparition, qui était une exégèse de ce fait de l'apparition et du message de la Vierge à la Salette. Or, le fait extraordinaire, parce qu'on disait tout à l'heure que Blois était un personnage romanesque, que sa vie était romanesque, ce prédicateur avec qui il va à la Salette et qui est d'une certaine manière pour lui une autre de ces figures de père spirituel comme Barbet l'aura été, meurt à la Salette et de l'hérésie pelle des montagnes, dit-on. On ne sait pas très bien de ce dont il s'agit, mais il en est mort en tout cas. Et,
le jour anniversaire.
Alors ce qui est quand même, les signes se multiplient, étranges, illisibles, mais Blois se sent d'une certaine manière fondé d'un pouvoir symbolique. Est missionné par cet événement pour, d'une certaine manière, se faire l'exégète et le prophète, laïque, bien entendu, de l'événement. Et ça va lui permettre aussi de se situer dans l'Église d'une manière très particulière, c'est-à-dire dans ce jeu paradoxal d'un chrétien anticlérical qui va se replier sur une petite communauté des chrétiens, alors soit des catacombes, soit des derniers temps, mais qui reconduisent à la fois à l'origine et à la fin. Et de cette manière, il va devenir le vieux de la montagne, de titre qu'on répète, mais qu'on ne comprend pas.
Léon Blois, vieux de la montagne, pèlerin de l'absolu, mendiant ingrat, tel a été le sujet de notre mauvais genre. De ce soir, une émission que nous terminons bien évidemment avec Christophe Beer.
Conteur, poète, musicien, marionnettiste, Charles Ribouillot est aussi un collectionneur ému par les traces du quotidien délaissé par les musées, objets bricolés se situant, dit-il, à la frontière entre art tribal, art brut et art populaire. Exposé à Arles, sa collection iconographique de nains, Hercule et géants a fait l'objet d'un livre aux éditions du Rouergue dont la couverture souligne l'enjeu principal, reproduction d'une carte postale des années 30, mettant en scène, par l'ajout d'un homme de taille disons conventionnel plutôt que normal, le gigantisme de Ferdinand Conta, le géant savoyard de 2,35 m. Ribouillot s'interroge sur les extrêmes des proportions humaines et les dispositifs de leurs exhibitions par l'image. Travaille sur la monstration plus précisément que sur la monstruosité, il rassemble aussi bien des gravures de créatures fictives et des statues géantes de carnaval que des clichés à vocation ethnographique, des images privées et des cartes sensationnelles à but lucratif. Fêtes foraines, publicité circassienne, images touristiques au royaume des goitreux pyrénéens, merveille du music hall joue constamment sur l'ambiguïté des perceptions, triche sur les perspectives, exagère et abuse de stratagèmes jusqu'à fabriquer du faux et des légendes. On remarque de grossières ficelles. Les géants adorent les chapeaux haute forme et les toques. Les nains posent à côté ou sur des mobiliers disproportionnés. Une famille de nains prétendument esquimaux amuse les gogos des entresorts. Les foires coloniales exhibent des simulacres absurdes de villages lilliputiens, concentration exotique d'individus qui valorisent le sentiment de puissance des badauds. On peut douter de l'authenticité de certaines femmes troncs posées dans des alcôves de baraques. Les jeunes obèses, plein cadre, défient l'objectif d'un œil noir. Thérésina, la reine des colosses, 265 kilos, pose fièrement dans sa cape en imitation de peau de panthère, dévoilant la nudité d'un cuisseau compresseur. Tous se prêtent allègrement au jeu éloquent des paradoxes, confrontant dans le même plan leurs différences. Le nain Denisot, de 7 kilos, debout sur un guéridon, pose un pied menu sur la bedaine gonflée du géant hollandais Canon pour lui allumer un havane de taille raisonnable. Les records sont brandis comme des médailles, imprimées sur le document. La collection de Ribouillot rejoint la conclusion de l'historien des freak shows Robert Bogdan, auteur de La fabrique des monstres. On ne naît pas freak, on le devient par un art plus ou moins nuancé de la représentation et de l'imposture.
Merci Christophe Beer pour cet hommage au fric et au phénomène à l'issue d'un mauvais genre consacré à un autre phénomène qui fut Léon Blois, qu'il faut lire et relire et le lire et le relire en vérité. Pour guider votre lecture, je recommande les ouvrages de Pierre Glaude. Merci d'être venu ce soir. Donc Léon Blois, la littérature et la Bible, c'est aux belles lettres d'Emmanuel Godot. Merci. Léon Blois, écrivain légendaire aux éditions du Cerf. Et puis l'apologie d'Ernst Jünger de François Livonnet chez Lemieux. Merci d'avoir été avec nous. Là, on découvrira les lecteurs, la lecture jungérienne de Blois, qui est quelque chose d'assez étonnant. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alain Joubert, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnet, François Livonnet, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain dans Mauvais Genre, où nous vous présenterons quelques impressions, quelques climats, quelques reflets, quelques échos de notre exposition à Mon Seul Désir, qui se tient chez Agnès B. à la République au 17 rue Dieu jusqu'au 10 janvier. Allez-y, vous ne serez pas déçus du voyage. En attendant, on reste à l'écoute de France Culture. Bonne nuit à tous.